Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et alors depuis le début de la semaine, Brice, vous nous rendez compte d'un certain nombre d'essais mettant en cause la méritocratie. Si ces critiques convergent, leurs angles d'attaque sont parfois très différents. C'est pourquoi on peut parler de tir croisé.
Eh oui, prenez Daniel Markovits, l'auteur du livre « The Meritocracy Trap », le piège de la méritocratie. Au passage, il reconnaît lui-même en être un pur produit. En 15 ans d'études supérieures, il est passé par la LSI londonienne, Oxford, Harvard, puis l'ultra-sélective Law School de Yale, accumulant les doctorats en mathématiques, économie, philosophie, avant de se consacrer au droit, la discipline qu'il enseigne aujourd'hui à Yale. En tant qu'économiste spécialiste des inégalités, écrit-il, j'ai commencé ma carrière intellectuelle en faisant la promotion de la méritocratie. Favoriser la mobilité sociale, la possibilité pour les enfants des familles modestes d'accéder aux strates supérieures de la société en se consacrant avec sérieux à des études difficiles, lui paraissait répondre aux nécessités de la justice sociale. Ce qui l'a fait changer d'avis, il a constaté que la méritocratie avait tourné à la reproduction sociale. Les universités qui sélectionnent et forment le gratin de la classe dirigeante, Harvard, Princeton, Stanford, Yale, recrutent davantage, figurez-vous, d'enfants des 1% les plus riches que des 60% situés en bas de l'échelle des revenus. Il y a une explication marginale. Les rejetons des anciens élèves, les fameux alumni, bénéficient de passe-droit, en particulier lorsque ces anciens élèves ont fait preuve de générosité financière envers l'université. Mais le fond du problème n'est pas là. Le fond du problème, c'est que les enfants des élites surdiplômées sont dorénavant entraînés dès leur plus jeune âge et à grands frais comme de véritables bêtes de concours. Dans les middle schools des quartiers chics de New York, Boston ou San Francisco, il est courant d'exiger des élèves entre 3 et 5 heures de travail personnel tous les soirs. Pas étonnant dans ces conditions qu'au SAT, SAT, les examens donnant le droit de postuler à l'admission à l'enseignement supérieur, les résultats de ceux dont les parents affichent des revenus annuels supérieurs à 200 000 dollars obtiennent des résultats de 250 points supérieurs à ceux dont les parents gagnent seulement entre 40 000 et 60 000 dollars, ce qui est considéré comme la classe moyenne aux États-Unis. La soi-disant méritocratie américaine est devenue une machine à l'auto-reproduction des élites, d'autant que ses membres se marient entre eux, engendrant des enfants dotés d'un capital génétique très supérieur, comme le montre David Goodhart, l'un des rares auteurs à oser s'aventurer sur ce terrain miné de l'hérédité. Le réquisitoire de Daniel Markovits contre la méritocratie s'appuie sur un phénomène qu'il est à peu près seul à prendre en considération, le surtravail exigé de la minuscule élite sociale. Alors que l'ancienne élite, celle de l'aristocratie, se considérait comme une classe oisive, écrit-il, les méritocrates travaillent avec une intensité sans précédent. La sélection par les études exige des aspirants méritocrates une quantité de travail astronomique. Elle provoque une véritable épidémie de dépression chez les lycéens de certains quartiers habités par les élites. À la fin d'études supérieures qui se sont déroulées dans un contexte de compétition exténuant, les jeunes diplômés estiment devoir rentabiliser le capital humain ainsi acquis, compétences, réseaux relationnels, notoriété. Or, les jobs très bien payés aux États-Unis se concentrent dans la finance, le management, les cabinets d'avocats et les spécialisations médicales. Markovits a constaté que ses anciens étudiants engagés dans ces professions travaillent couramment 12 heures par jour, 6 jours sur 6, et ne prennent pratiquement jamais de vacances. Plus vous grimpez les échelons hiérarchiques, plus on attend de vous que vous travailliez encore davantage. C'est pourquoi ce professeur de droit estime que la révolte contre la méritocratie viendra aussi des méritocrates eux-mêmes. Ses membres voudraient retrouver une vie normale.
Et la critique de la méritocratie de Michael Sandel dans The Tyranny of Merit, What's Become of the Common Good, est très différente, Brice.
Eh oui, parce que selon ce philosophe vedette, l'ascension de la méritocratie a coïncidé avec un écartement extravagant dans la hiérarchie des rémunérations, notamment dans le système où le gagnant emporte la mise, the winner takes all, d'où une hubris méritocratique par laquelle les super diplômés, qui sont en général aussi riches, puissants et bien connectés, méprisent ceux qu'ils considèrent comme des ratés méritant leur sort minable. Mais si le succès récompense le plus souvent le talent et l'effort, ce n'est pas toujours le cas. Le facteur chance est également très important. Et surtout, la richesse, la puissance et la notoriété sont fortement déconnectés de l'utilité sociale. Pensez qu'un directeur de casino à Las Vegas gagne plusieurs fois par mois ce qu'un professeur gagne dans l'année. Drôle de méritocratie.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture et l'application Radio France. On vous retrouve demain